Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Jeudi 10 décembre 1942. Est-il normal, en mes meilleures années, de voir cette seule ruelle, ces quelques cours encloses, étouffées? Je voudrais crier au temps d'attendre, de cesser de courir. Je voudrais rattraper mon année passée et la garder pour plus tard, jusqu'à la nouvelle vie. Je n'éprouve pas le moindre désespoir. Aujourd'hui, j'ai 15 ans et je vis confiant en l'avenir. Je vois devant moi du soleil, du soleil, du soleil. Bonjour Gilles Rosier.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, traducteur et désormais également éditeur, fondateur des éditions de l'Antilope que vous avez lancé cette année. Ce passage que je viens de lire est extrait d'Entre les murs du ghetto de Vilno, 1941-1943. Le journal qu'a tenu un adolescent de 15 ans, Yitzhak Rudashevski, entre juin 1941, donc date de l'invasion allemande et de la constitution du ghetto, et le 7 avril 1943, qui est la date de la dernière entrée de ce journal. C'est le deuxième ouvrage que vous publiez, que les éditions de l'Antilope publient. Il a été traduit du yiddish par Batia Baum. « Non, nous n'irons pas à Ponard ». Ce cri de révolte revient à plusieurs reprises dans le journal. Hélas, Yitzhak Rudashevski sera exécuté le 1er octobre 1943 à Ponard, cette clairière située à 8 km de la ville où furent assassinés la plupart des juifs de la ville, comme vous le rappelez dans la préface que vous avez écrite pour ce livre. Alors, ce témoignage de Yitzhak Rudashevski, on peut le comparer à celui d'Avraham Schutzkever, mais aussi à celui d'Anne Frank, je trouve, en raison de ses qualités littéraires. Et puis, il y a ce mélange de candeur, de maturité, d'innocence et de gravité qu'on retrouve chez ces deux jeunes écrivains assassinés. Ma première question, Gilles Rosier, c'est comment vous avez déniché ce texte et en quoi il s'inscrit dans le projet éditorial de votre maison d'édition?
Alors, en fait, vous disiez que c'était grâce à moi, c'est surtout grâce à Batia Baum, la traductrice, qui le texte a été publié en yiddish, dans une version un petit peu réduite, enfin même sensiblement réduite, justement par Avraham Schutzkever, qui a été aussi enfermé dans le ghetto de Vilno, qui a été partisan dans le ghetto de Vilno et qui a survécu, qui a créé une revue à Tel Aviv à la fin des années 40, une revue yiddish, et donc en 1953, il a publié les deux tiers de ce journal dans sa revue. Et Batia Baum avait eu connaissance de cette publication. Il faut savoir que Batia lit énormément, elle cherche beaucoup de textes et elle fait un travail extraordinaire pour la traduction de textes yiddish en français. Et il y a deux ans, au moment du 100e anniversaire de la naissance de Avraham Schutzkever, 3 ans, nous avions invité à la Maison de la Culture Yiddish Batia Baum à une table ronde sur le yiddish comme langue des camps et des ghettos. Et elle a lu en yiddish et en français des extraits du journal. J'ai lu la totalité. Et je lui ai proposé elle avait déjà traduit tout. en tout cas, tout ce qui avait été publié dans la revue. Et je lui ai proposé de publier sa traduction. Parce que j'avais l'intention, avec Anne-Sophie Dreyfus, nous avions l'intention de créer les éditions de l'Antilope. Alors, pourquoi est-ce que ça s'inscrit dans notre ligne éditoriale, comme on dit? C'est que les éditions de l'Antilope se consacrent d'une manière générale à la littérature juive. Et ce qui veut dire principalement par la fiction, en tout cas par la littérature. Ça, c'est bien entendu pas un ouvrage de fiction, puisque c'est un journal intime écrit par un adolescent au cœur des choses. Néanmoins, c'est un texte qui nous a semblé tellement littéraire aussi. C'est à la fois un témoignage et un texte très fort. Quand on pense qu'il a été écrit par un garçon qui avait 13, 14, 15 ans, c'est assez incroyable. Que pour moi, c'était une évidence de publier ce texte. Bon, à titre personnel, c'est vrai que j'avais été le traducteur du reportage témoignage de Avraham Schutzkever, qui a été publié chez De Noël sous le nom Le Ghetto de Vilno, il y a 3 ans. Et donc, je connaissais bien ce sujet et j'étais sans doute davantage sensible à ce lieu où il s'est passé des choses très singulières. On y viendra peut-être, mais notamment toute l'activité culturelle et littéraire qu'il a pu
très,
y avoir dans le ghetto.
Très, très importante. Alors, pour finir sur votre maison, puisque c'est l'occasion de la présenter à nos auditeurs qui ne la connaisseraient pas encore, vous avez déjà publié un roman Pouvez-nous en dire
oui,
un peu?
Oui, alors le premier texte que nous avons publié, c'est un roman contemporain, traduit de l'hébreu, d'une romancière qui a écrit son premier roman, Rachel Chalita, et le roman s'appelle « Comme deux sœurs ». C'est un roman qui se passe, c'est l'histoire de deux petites filles jusqu'à leur âge adulte, qui se considèrent, qui sont très amies, de sorte qu'elles se considèrent comme deux sœurs, et on les voit grandir dans la Palestine juive d'entre les deux guerres, entre Tel Aviv et le kibbutz. Et voilà, c'est la première publication. Et le journal de Yitzhak Rodashevski, Entre les murs du ghetto de Vilno, et la deuxième qui est parue en mars 2016. Depuis, il y en a eu une troisième en avril, il y a quelques semaines, puisque nous célébrons cette année le 100e anniversaire de la mort du grand écrivain yiddish Sholem Aleichem. On a tenu à publier des histoires de Sholem Aleichem, qui est un écrivain tout à fait exceptionnel et sans doute pas encore suffisamment connu du public francophone.
Je me demandais s'il y avait d'autres trésors comme de ce genre, des textes inédits ou alors à diffusion confidentielle que vous voulez sortir de l'oubli, on pourrait dire, bon, sans mauvais jeu de mots, du ghetto yiddishophone. Est-ce qu'il y en a d'autres est-ce que c'est l'une des vocations aussi de cette maison, peut-être, de faire connaître des textes qui auraient été publiés que dans un petit cercle?
Oui, bien sûr. Vous savez, dans le dictionnaire des écrivains yiddish, il y a 8000 noms. En français, il y en a peut-être 40 qui ont été traduits en français. Alors évidemment, il n'y a pas 8000 noms de premier plan, hein. Il y a aussi des journalistes, il y a toutes sortes de personnes, mais pour vous dire le terreau culturel qu'a représenté la littérature et la culture yiddish. Et il y a encore de nombreux textes à découvrir, à faire découvrir, y compris d'écrivains qui ont été tout à fait connus dans le monde yiddish et qui sont totalement inconnus en France, peut-être un petit peu moins aux États-Unis parce qu'il y a eu plus de traductions, parfois moins aussi en Israël, mais en tout cas en France, même s'il y a un gros travail de traduction depuis une vingtaine d'années, il reste encore énormément de choses à découvrir et nous avons un certain nombre de projets. Nous publions au mois d'octobre un inédit de Israel Joshua Singer, par exemple, le frère du prix Nobel Isaac Bashevis Singer. Il y a encore des textes inédits de lui. Il faut chercher un tout petit peu. Donc on a cherché. Et puis, il y a des tas de choses formidables, que ce soit en littérature ou même en reportage. Le monde yiddish, il y avait des journaux yiddish, il y a des journalistes qui sont allés dans le monde entier, il y a des journalistes qui ont fait des reportages sur toutes sortes de choses, l'esclavage des Noirs en Afrique du Sud, sur les Juifs dans les premières années de l'Union soviétique, par exemple, et notamment les colonies juives, les kibbutz communistes en Union soviétique. Enfin, toutes sortes de choses à découvrir. On s'intéresse aussi à des textes sur les Juifs en Pologne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il a subsisté à peu près 300 000 Juifs pendant quelques années. Et il y a des textes aussi sur le sujet. Donc voilà, enfin, toutes sortes de choses.
Vaste programme. Donc,
absolument.
On attend avec impatience de découvrir tous ces livres. Ce témoignage, comme on l'a dit tout à l'heure, révèle à quel point la vie culturelle donc, était riche dans ce ghetto, malgré les souffrances endurées. Est-ce que c'est propre au ghetto de Vilno ou est-ce qu'on retrouve ça ailleurs?
Alors, on retrouve ça ailleurs, mais pas avec cette ampleur. Pour diverses raisons. En fait, le ghetto de Varsovie, par exemple, a été liquidé assez vite, en fait. Et le ghetto de Vilno, en fait, il y a eu d'abord une période de terreur, avec des rafles, où la population juive de Vilno a décru de manière très rapide.
Bien décrite dans le livre,
voilà.
Au début.
Ouais, absolument, et même avant la constitution du ghetto. Le ghetto était constitué en septembre 41, et entre juin et septembre 41, il y a déjà eu des rafles, des assassinats, etc. Puis jusqu'en janvier 42, les rafles ont continué de manière intensive. Et à partir de juillet 42 jusqu'au printemps 43, il y a eu une période, entre guillemets, passez-moi l'expression, de stabilisation. Parce que les nazis utilisaient les habitants du ghetto comme force de travail. Comme esclaves, en fait, dans un certain nombre de fabriques, de lieux pour participer à l'effort de guerre nazie. Et donc là, il y a eu une période d'accalmie, et c'est pendant cette période d'accalmie que la vie culturelle s'est développée, soit tolérée, soit semi-clandestine. Enfin, c'est, il y a eu divers. Soit organisé par l'administration juive du ghetto, le Judenrat, soit aussi des choses faites en dehors de l'administration juive et de manière clandestine. Donc, il y a une autre raison à cela, c'est que Vilno, le surnom de Vilno dans la culture juive, c'est la Jérusalem de Lituanie, donc c'était une relativement, par rapport à d'autres grandes villes, par rapport à Kiev, par rapport à Varsovie, même à Lodz ou à Lemberg, il y avait moins de juifs, il y avait à peu près 60 000 juifs à Vilno, mais une vie culturelle et littéraire très intense. Et quand la Pologne a été envahie par les nazis, enfin les nazis et les soviétiques, mais en tout cas les gens qui étaient dans la partie occupée par les nazis, il y en a beaucoup qui sont partis à l'Est, enfin un certain nombre qui sont partis à l'Est, et les intellectuels, un certain nombre, sont allés à Vilno, et donc ils se sont retrouvés au moment où l'Allemagne a envahi la Lituanie, dans la NAS, à Vilno. Donc, par exemple, Hermann Krook, qui était le bibliothécaire, qui a écrit un très beau journal aussi, qui n'est pas encore publié en français, était en fait un juif varsovien, mais qui s'est trouvé à Vilno au moment de la constitution du ghetto.
D'accord. Yitzhak Rudashevski raconte effectivement qu'il va à l'école, continue à étudier, il participe le soir à des cercles. Alors un cercle de poésie d'ailleurs, il fait mention à deux
dirigé
reprises.
Dirigé par Schutzkever.
Voilà, ouais. Dirigé par Schutzkever. Il participe aussi à la mise en scène d'une pièce de théâtre autour du procès d'Hérode. Et alors, ce qui est très intéressant, est-ce qu'on retrouve aussi un peu dans le ghetto de Varsovie, c'est qu'il y a une volonté de documenter l'existence dans le ghetto, d'écrire l'histoire du temps présent, en quelque sorte.
Oui, alors ça, ça a été fait de manière moins systématique qu'à Varsovie, puisqu'à Varsovie, il y avait le grand historien Emmanuel Ringelblum, qui avait créé une organisation vraiment extrêmement structurée autour de ça. À Vilno, ça a été moins systématique, mais effectivement, ces adolescents, Yitzhak Rudashevski et ses camarades de classe, on les invite à faire des reportages ethnologiques, quoi, à les poser des questionnaires aux habitants.
Des sondeurs ou des sociologues, ils font en quelque sorte du porte-à-porte ou parfois ce qu'il en reste.
Et, tout à fait.
Et ils vont recueillir l'histoire des gens.
Oui, et d'ailleurs, ces réactions par rapport à ça sont tout à fait fascinantes parce que parfois les gens acceptent de répondre et puis d'autres fois les gens disent « mais vous n'avez pas honte de nous poser des questions comme ça, vous avez vu la situation dans laquelle on se trouve, il y a autre chose à faire ». Et lui finit par dire « ils ont raison ». Mais moi aussi, j'ai raison de faire ça.
Il dit, tout doit être consigné et enregistré, même le plus sanglant, car tout devra être pris en compte.
Oui.
Et on a l'impression qu'il a la prescience quand même de ce qui va se passer, à savoir que bon, le ghetto va être liquidé et que cela servira de témoignage.
Bah, il a évidemment vu les conditions et les circonstances. Le doute est toujours présent de savoir d'abord il se retrouve survivant dans le ghetto alors qu'il a déjà vu plus de la moitié de la population de la ville raflée et assassinée à Ponard. Et puis, peut-être aussi qu'il se dit quelqu'un qui écrit son journal intime, c'est aussi je sais ce que j'écris maintenant, mais est-ce que dans quelques années, si je survis, je me souviendrai vraiment de mes émotions, de la réalité? Parce que peut-être qu'il a la prescience que la mémoire transforme les choses.
Mmh. Oui. Non, je pensais au fait que le témoignage d'Avrom Schutzkever avait servi de pièce à conviction au tribunal de... C'est ça, hein, au procès de Nuremberg.
Alors, Schutzkever lui-même a été cité... comme témoin par l'Union soviétique à Nuremberg. Et d'ailleurs, Schutzkever, c'est intéressant parce que c'est un témoignage et un reportage. C'est-à-dire qu'il témoigne de ce qu'il a vécu. Mais par exemple, il interviewe des personnes qui ont été des rescapés de Ponard, des gens qui se sont retrouvés au moment des exécutions de masse empilés sous des morts et qui à la faveur de la nuit, arrivaient à ressortir et à raconter, ou alors des gens qui ont été déportés dans les camps d'Estonie plus tard, etc. Donc il fait à la fois œuvre de témoignage et de reportage. Et en fait, le jeune Rudashevski, il essaye de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il raconte ce qu'il vit, mais il essaye de raconter un petit peu ce que les autres gens vivent.
Notamment, il recueille le témoignage d'un habitant, de témoignage bouleversant d'un habitant de Biélorussie qui a tout perdu. Il dit, là-bas, on a été exterminé, il n'y a plus un juif. Il est très marqué quoi, par ce témoignage. Alors, effectivement, je disais tout à l'heure prescience ou conscience. Alors, on ne sait pas vraiment avec Yitzhak Kudashevski, parce que, comme vous disiez, pendant cette période d'accalmie, il est enthousiaste, il a des projets, il va à l'école, il apprend. J'ai cité voilà, l'extrait de son journal, c'est le jour de son anniversaire, il dit « je vois du soleil ». Et en même temps, comme vous dites, il sait ce qui se passe. Il y a cette phrase aussi, non, nous n'irons pas à Ponard. Il sait que
ça peut l'attendre. Oui,
à 10 kilomètres de là. Et je me suis demandé du coup comment comprendre ces accès de lucidité, cette hyperlucidité, puis en même temps, parfois, on a l'impression comme un aveuglement qui aurait pu peut-être l'empêcher de se révolter. C'est-à-dire, est-ce que...
Oui, c'est juste. Alors, déjà, il faut... Un ghetto, ce n'est pas un camp de concentration ou d'extermination. Hein. C'est-à-dire que la vie y est, malgré tout, moins difficile que dans un camp de concentration. C'est-à-dire qu'on y vit... Et on y meurt en même temps. Enfin, c'est-à-dire, c'est une espèce de mort lente ou une espèce de vie au ralenti. Enfin, c'est un peu les deux à la fois. Donc finalement, c'est cette succession d'abattement et d'enthousiasme dont il fait preuve dans son journal, c'est un petit peu le reflet de cette espèce de schizophrénie d'un lieu que les nazis appellent un lieu de vie, mais qui finalement est un lieu de survie terrible. Donc je pense que ça participe de ça. Et aussi... Ce qui est très intéressant dans son journal, c'est qu'on se rend compte qu'il était tout à fait informé de ce qui se passait à l'extérieur du ghetto. Bon, maintenant, on sait maintenant que c'est grâce aux radios de la résistance, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du ghetto, la résistance lituanienne qui communiquait, communiste, qui communiquait avec la résistance juive à l'intérieur.
Lui-même est militant communiste, c'est ça
Il a été dans les pionniers, dans les jeunes pionniers communistes. Il a beaucoup d'admiration pour l'Union soviétique et pour l'armée rouge. Et donc, chaque fois que l'armée rouge a des... Par exemple, il parle de Stalingrad.
Il ne suit pas, effectivement.
Il parle du débarquement des alliés en Afrique du Nord, en Corse. Et donc, il sent bien que si on arrive à tenir, eh ben on va survivre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu complexe, notamment dans le ghetto de Vilno, c'est que le président du Judenrat du ghetto de Vilno, Gantz, disait, et les historiens pensent de plus en plus que c'était tout à fait sincère de sa part, alors qu'il a pu être présenté comme un monstre ou comme un pervers par d'autres côtés, il pensait que si on tenait suffisamment longtemps, eh bien, il allait pouvoir permettre à 10 000, 20 000 juifs du ghetto de Vilno de survivre. Et d'ailleurs, Gantz avait eu des contacts avec la résistance juive du ghetto en leur disant, écoutez, pour l'instant, ce serait complètement illusoire de se... Donc, il avait une divergence avec les résistants en disant, ce serait illusoire de se révolter contre les nazis parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Mais dès que l'armée rouge va arriver, à ce moment-là, je changerai de camp. C'est-à-dire que je quitterai mon rôle de président du Judenrat et je ferai en sorte que le plus de gens viennent dans la résistance. Voilà. D'accord. Donc c'est des questions qu'on peut pas juger 70 ans après, mais qui ont été
c'était
toute la perversité des nazis.
En plus, qui entretenait l'espoir avec ses faux permis.
Bien sûr.
Permis jaune, blanc, rose, enfin...
Oui, et enfin, bon, ça, c'était pour rendre les gens fous. Et puis aussi, il y avait deux ghettos au début à Vilno. Il y avait le grand ghetto, le petit ghetto. Quand on raflait dans le grand ghetto, on emportait 90% des gens pour exécution à Ponard. Enfin, je vous dis 90%, j'ai pas les chiffres exacts, mais... Et 10% dans le petit ghetto. Donc, les gens avaient toujours l'espoir que leur famille, leurs proches, avaient été emmenés dans le petit ghetto. Des choses comme ça, quoi. Enfin, un comportement d'une perversité terrible.
Mais c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup question de la résistance, en fait, de la résistance militaire, hein, j'entends. La résistance
c'est
militaire,
vrai qu'il,
d'une autre forme
il
de
n'en
résistance.
Parle pas. Il ne parle pas de résistance militaire, c'est d'autant plus surprenant, et je dois avouer que je n'ai pas de réponse à cette question, que sa cousine Germaine, qui était aussi une de ses amies proches, enfin ils étaient très proches, s'est engagée parmi les résistants. Elle a été la seule de sa famille à survivre, puisqu'elle est partie du ghetto avec les résistants 15 jours avant la liquidation. ans, et c'est elle qui a retrouvé le journal dans les décombres, enfin dans la cache où se cachait la famille, où elle a été trouvée.
Oui, effectivement, vous citez d'ailleurs son témoignage qui est assez bouleversant, hein, quand elle va retourner après la destruction du ghetto.
Elle revient avec l'armée rouge, donc voilà. Avec les partisans qui ont rejoint l'armée rouge. Et la première chose qu'elle fait, bon, une fois qu'elle a le soir, quand elle a terminé son travail de soldate, disons, c'est de retourner à l'appartement où habitaient ses parents, son oncle, sa tante et son cousin Yitzhak. L'appartement était à un étage et en fait, comme faisaient beaucoup de gens dans le ghetto de Vilno, il y avait une cache à un autre endroit où, quand il y avait des bruits sur des rafles, les gens allaient se cacher pour laisser leur appartement vide. Et en fait, eux avaient une
cache.
Leur cache était dans un grenier et ils ont été découverts dans cette cache. Et donc elle monte d'abord à l'appartement, puis au grenier et dans le sable, enfin
c'est ça,
la poussière.
Je creuse dans le sable et je retrouve des photographies de nous. Je poursuis mes recherches dans un coin couvert de poussière. J'ai un cahier. Ce sont les notes de mon ami, son journal du ghetto. Il est couvert de poussière, tout sale. Que de souffrance ce garçon portait sur lui. Il l'avait toujours avec lui, il le cachait, il ne le montrait à personne, etc. Et donc c'est ce cahier-là qu'on a entre les mains, nous, enfin grâce à vous, je veux dire.
Oui, qui est à présent conservé à New York, au YIVO de New York. En fait, Sara Volozhin, la cousine d'Yitzhak Rudashevski, l'a remis à Avrom Sutzkever après-guerre. Et Sutzkever a fait don, enfin ils étaient deux, Sutzkever et Kaczerginski, ils ont rassemblé des documents et ils ont expédié ces documents au YIVO à New York. Donc il est conservé maintenant dans la collection qui s'appelle Sutzkever-Kaczerginski au YIVO, qui est le grand centre de recherche et de conservation du judaïsme d'Europe orientale aux États-Unis.
Alors par rapport à cette question de l'éventuelle passivité, hein, je mets vraiment beaucoup de guillemets de Yitzhak Rudashevski, en tout cas le fait qu'il n'ait pas participé comme sa cousine à la résistance, on peut aussi se dire que ce texte finalement nous fait prendre conscience qu'il y a d'autres, formes de résistance. Il n'y a pas que la résistance, on va dire, militaire, mais il y a cette résistance culturelle, spirituelle, qui a été tellement importante finalement dans les ghettos, y compris dans les camps. Et qu'en fait, on a tendance à minorer.
Oui. Alors, dans le cas de Rudashevski, c'est très clair. Il y a un très beau passage où il dit qu'on lui propose d'aller dans une école professionnelle, alors que, en fait, l'école a repris justement à partir de janvier 42, au moment de cette période entre guillemets de stabilisation. Et donc, il a des très belles pages où il dit je retourne à l'école, la vie quotidienne est complètement transformée, on passe pas son temps à se casser les pieds, on apprend des choses, c'est formidable. Et après, on lui propose de faire une école professionnelle et il s'interroge en disant qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois apprendre un métier ou est-ce que je dois consacrer ce moment à me cultiver? Et il finit par répondre que ça vaut le coup de continuer à se cultiver. C'est beau, ça peut même, quand on dit maintenant que l'université française doit être professionnalisante, il y a certains à qui on pourrait faire lire ça en disant et étudier la philosophie, pourquoi pas?
S'il avait survécu, il aurait été un très grand écrivain. C'est déjà un très grand écrivain d'ailleurs. J'invite les lecteurs à lire ce journal Entre les murs du ghetto de Vilno, à lire par exemple les passages où il décrit ses enfants aux doigts engourdis par le froid qui se livrent à un petit trafic de bougies sous la lueur d'un réverbère. C'est des passages que, je ne sais pas, Dickens aurait pu écrire ou Andersen, hein, pour parler du conte célèbre. Évocation poignante qui montre l'immense talent de ce jeune écrivain qui s'ignore. Merci Gilles Rosier, merci d'avoir publié ce texte, merci à Batia Baume. J'en profite pour annoncer qu'une table ronde sera organisée le 26 juin au Mémorial de la Shoah sur le thème « Les écrits d'adolescents » à 14h30. Elle sera animée par Catherine Cocchio. Merci encore Gilles Rosier. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver. www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. Et les éditions de l'Antilope ont aussi un site internet, je le mentionne, éditionsdelantilope.fr. À dimanche prochain.